Écoutez, on est extrêmement heureux de vous accueillir ce soir pour la première de Roméo et Juliette. On est très très heureux parce qu'on a eu très peur. Donc je vous annonce, si vous n'êtes pas encore au courant, que notre Roméo et notre Juliette, prévus jusqu'à hier, Jean-François Borras et Julie Fuchs, ont été successivement testés positifs samedi matin et ce matin. Jean-François Borras samedi matin, Julie Fuchs ce matin. Voilà, donc c'est très douloureux pour nous, mais bien sûr, cela faisait une semaine que nous travaillions d'arrache-pied à établir des listes d'artistes qui pouvaient remplacer très honorablement tous nos solistes. Et donc, on a le bonheur de vous proposer ce soir une première avec deux artistes remarquables qui ont travaillé toute la journée pour pouvoir faire la mise en scène. Ils ont commencé à répéter aujourd'hui, ce matin, la mise en scène, et ils sont au point, Pénépathie dans le rôle de Roméo, un grand Roméo, et Perrine Madoff dans le rôle de Juliette, une grande Juliette, des artistes qui ont déjà chanté ces rôles dans d'autres productions scéniques et qui ont travaillé d'arrache-pied toute la journée pour interpréter la mise en scène d'Éric Ruff et travailler sous la baguette de Laurent Campelone dans les coordonnées qui étaient celles de Jean-François Borras et de Julie Fuchs. Donc vraiment, nous sommes extrêmement soulagés parce que ce spectacle est magnifique, que nous l'avons accompagné avec enthousiasme pendant 5 semaines de répétition. Donc on est très reconnaissant à ces artistes qui sont jeunes, qui sont beaux, qui sont très engagés physiquement, qui ont des voix somptueuses. Et nous sommes convaincus, si nous n'en avions pas eu la conviction, on n'aurait pas maintenu la première, mais nous sommes convaincus que vous allez aimer ce spectacle et aimer cette production. Voilà. Mais merci pour eux. Sachez que, bien entendu, leurs tests sont négatifs. Les tests de tout le monde au plateau et dans la fosse sont négatifs et que vous allez avoir, malgré ces péripéties, vous allez avoir le bonheur de voir un spectacle où les solistes seront démasqués puisqu'ils sont négatifs. En revanche, nous maintenons un protocole sanitaire strict pour les choristes, les danseurs et les musiciens qui ne jouent pas des instruments avant. Donc, entre autres, les choristes seront masqués sur la scène et ils ont répété tout le temps masqués. Donc, les équilibres musicaux sont tout à fait corrects. Nous y avons veillé entre le plateau et la salle. Mais imaginez ce que c'est que de faire une balance pour une partie des artistes qui sont masqués et l'autre pas. Sachez néanmoins, je tiens à le dire, que Jean-François Borras et Julie Fuchs ont répété pendant toutes les répétitions masqués. Ils n'ont pris aucun risque, ils ont même vraiment pris toutes les précautions possibles, donc on n'est pas à l'abri de se retrouver positif, même doublement vacciné et plein de précautions. Voilà, c'était le petit chapitre sanitaire pour vous mobiliser. Alors, Roméo et Juliette n'a pas été joué dans cette maison depuis 1994, peut-être que certains parmi vous avaient assisté à ces représentations, où Roberto Alagna débutait, entre autres, dans le rôle de Roméo. On était très désireux de redonner Roméo et Juliette de Gounod dans cette salle. Et lorsque nous avons découvert la magnifique mise en scène d'Éric Ruff à la Comédie Française en 2015, nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être là une solution intéressante. Son regard était tellement neuf, était tellement vivant, était tellement frémissant sur ce drame, sur cette histoire d'amour qui se noue malgré les contraintes, la guerre civile qui règne à Vérone et que Éric Ruff a transformé en un contexte de vendetta qui fleure l'Italie des années 1930. On s'est dit que son regard très neuf et la façon très juvénile et très fraîche dont il dirigeait Roméo et Juliette était une très belle solution pour porter cette partition de Gounod auprès d'un large public. Et on lui a proposé donc de faire venir la production de la Comédie Française à l'Opéra Comique. C'est aussi une façon pour nous d'étudier s'il est possible de faire circuler les décors et de créer une économie circulaire un peu plus vertueuse. Il y a une belle production quelque part, eh bien on la fait passer d'un répertoire à un autre, on ne reconstruit pas de décors, on fait des économies et on voit si ça marche. On a été heureux de constater que cela marchait en effet pendant ces semaines de répétition et Éric Ruff a eu beaucoup de bonheur à constater que l'œuvre de Gounod est belle et profonde, ne fait pas l'économie des événements les plus importants de la pièce de Shakespeare, que les librettistes Barbier et Carré ont très habilement su écrire un texte qui est fidèle à l'esprit de Shakespeare tout en favorisant les situations musicales. Il se trouve que Barbier et Carré, les deux librettistes, ont travaillé au moment où François Victor Hugo, le fils de Victor Hugo, établissait la première traduction authentique, enfin fidèle, de la pièce de Shakespeare. Il a fallu attendre la fin des années 1860 pour que la France découvre un peu Shakespeare pour de vrai, Shakespeare pas travesti. Parce que jusque-là, Shakespeare, on l'avait beaucoup travesti, on l'avait beaucoup adapté, on l'avait pas traduit fidèlement. Et tandis que François-Victor Hugo, sur l'île de Guernesey où était exilée sa famille, traduisait tout Shakespeare de la façon la plus fidèle possible, eh bien, Gounod s'attachait à ce livret et il est fort probable qu'il y ait eu des circulations de manuscrits entre les deux auteurs parisiens et le traducteur parisien exilé à Guernesey, parce qu'il y a des citations qui reviennent de la traduction au livret. En tout cas, donc, grâce à cette œuvre de Gounod, qui a été son troisième opéra à grand succès. Il avait créé en 1859 Faust. 4 ans plus tard, il a créé Mireille. C'était déjà des succès importants, mais avec Roméo et Juliette en 1867, alors ça a été triomphal. Et ça a vraiment rencontré un élan du public vers une plus grande authenticité dans l'appréhension du théâtre de Shakespeare. En 1867, on est à un moment un peu particulier de l'histoire culturelle à Paris, puisque c'est une année d'exposition universelle. Et à ce moment-là, tous les théâtres, enfin chaque théâtre fourbit un ouvrage un peu particulier qui va attirer le public qui vient nombreux de toute l'Europe, de l'étranger, des colonies, etc. Donc, à l'opéra, on présente Don Carlos de Verdi. C'est quand même un grand, grand titre. Offenbach sort La Grande Duchesse de Gerolstein. Arrêtez-moi si je me trompe, parce que là, il est possible que je fasse une erreur. C'est ça, c'est La Grande Duchesse, pour ceux qui savent. Merci. Et donc, merci, et donc Gounod sort Roméo et Juliette. Et Roméo et Juliette ne paraît pas à l'opéra comique, ça a été un petit peu décevant, l'opéra comique était un petit peu en retard à ce moment-là, n'a pas eu de grande création. Roméo et Juliette a été créé dans une institution qui était à la fois la rivale de l'opéra, qui présentait Don Carlos, et de l'opéra comique. Roméo et Juliette a été créé dans cette institution à laquelle Gounod était fidèle depuis Faust, et même depuis avant Faust, cette institution s'appelait le Théâtre Lyrique. Et ça vous dit peut-être rien, parce que c'est une institution qui n'a duré que 18 ans et qui rivalisait donc à la fois avec l'opéra et avec l'opéra comique, et qui était à ce moment-là, au moment de la création de Roméo et Juliette, installée place du Châtelet, là où se trouve aujourd'hui le théâtre de la ville. Dans cette institution travaillaient Bizet, Berlioz, Saint-Saëns, Gounod. Et Gounod était vraiment le compositeur qui était mis en avant régulièrement. Le rôle de Juliette a été créé par la chanteuse qui avait créé auparavant le rôle de Marguerite dans Faust et le rôle titre de Mireille. Elle s'appelait Marie-Caroline Miolan Carvalho, c'était la femme du directeur Léon Carvalho, qui est un personnage très important dans l'histoire de l'art lyrique français au XIXe siècle, parce que c'est le premier grand metteur en scène d'opéra français. C'est le premier à avoir accordé un soin énorme à l'effet que produisait le spectacle, en essayant de coordonner au mieux les décors, les costumes, et en n'hésitant pas à couper les œuvres, à réagencer les éléments. Les compositeurs n'avaient rien à dire. Donc, Roméo et Juliette paraît au Théâtre Lyrique au printemps 1867 avec deux librettistes très aguerris, mais aussi un metteur en scène, directeur de théâtre, qui a su forcer Gounod à faire une pièce très théâtrale. Gounod voulait faire un opéra comique, avec donc une alternance de morceaux chantés et de dialogues parlés. Léon Carvalho lui a dit non, tu vas faire un opéra, ça passera beaucoup mieux. Gounod avait peur d'ennuyer en faisant des récitatifs entre les numéros musicaux, et Carvalho lui a dit, je sais ce que tu vaux, tu es capable, tu vas faire un opéra continu, ça passera très bien. Et vous verrez que la pièce est très efficace, il n'y a pas de moment où il n'y a pas de longueur, on ne s'ennuie pas, on passe d'un numéro à un autre, enfin d'un élément musical à un autre élément musical avec beaucoup de vivacité. Vous verrez que c'est une pièce qui est remplie de scènes de grande activité scénique. Il y a un bal, il y a des combats, il y a des duels, il y a des confrontations incroyables. Il y a deux scènes de mariage, parce que vous savez que Juliette se marie deux fois. Une fois en secret avec Roméo, celui qu'elle aime, mais en secret parce que les deux familles, Montaigu et Capulet, sont ennemis. Et une deuxième fois, elle doit épouser un deuxième homme qui est Paris, celui auquel son père, Capulet, la destinait depuis le début. Donc il y a deux mariages, c'est incroyable, un opéra dans lequel il y a deux mariages. Et alors, là aussi, où les librettistes et le metteur en scène ont fait très fort, c'est que c'est un opéra où il y a 4 duos d'amour. On n'a jamais vu ça dans le répertoire, 4 duos d'amour. C'est extraordinaire, quasiment un par acte, puisqu'il y a 5 actes. Donc on sent qu'on a non seulement des auteurs de livrets aguerris, qui avaient déjà fait Faust et Mireille auparavant, mais qu'on a aussi un metteur en scène qui sait ce qui marche. Et le bal au premier acte, la fête chez les Capulet au cours de laquelle se rencontrent Roméo et Juliette, eh bien, le metteur en scène de l'époque avait dit « Faites-moi un grand bal, j'ai un corps de ballet, je veux que ça danse sur le plateau ». Donc cette œuvre a connu un succès énorme et bien plus important en 1867 que ses rivales composées par Verdi et Offenbach, ce qui pouvait être un motif de fierté pour Gounod. Ça a été son plus grand succès de son vivant. Et puis cette œuvre a été donnée très très régulièrement jusqu'à la faillite du théâtre lyrique et ensuite, bon, faillite qui a été à peu près concomitante avec la guerre très brève entre la France et la Prusse. Et ensuite il a fallu attendre quelques années pour que Roméo et Juliette rebondissent entre guillemets à l'opéra comique. C'est-à-dire que c'est l'opéra comique, l'institution parisienne, qui la première a réussi à convaincre Gounod de redonner Roméo et Juliette dans un beau théâtre. L'opéra aurait bien aimé, mais ça n'a pas marché, c'est l'opéra comique qui l'a eu. Et en 1873, Gounod était bloqué en Angleterre par de sombres histoires que je tairai ici, vous en saurez plus si vous lisez le programme de salle, encore que nous sommes un peu pudiques sur cette affaire, mais bref, Gounod n'était pas à Paris, et l'artisan de la reprise de Roméo et Juliette à l'opéra comique, c'est le jeune Georges Bizet, qui était en train de créer l'Alsacienne, et qui a pris en main la partition de Roméo et Juliette pour la faire apprendre à la troupe de l'opéra comique, où, que venait d'intégrer Marie-Caroline Miolan-Carvalho, donc la créatrice du rôle, hein, et ainsi l'œuvre a pu connaître une deuxième vie ici, et comme le mari de la diva est venu prendre la direction de l'opéra comique quelques mois plus tard, ah oui, parce qu'il était tellement bon que l'opéra comique, après la fermeture du théâtre lyrique, l'opéra comique l'a très vite attiré, eh bien, Roméo et Juliette a connu une très belle carrière à l'opéra comique. Alors, je vous disais au départ, et je vais prendre quelques minutes pour vous raconter cela, qu'on découvre à ce moment-là Roméo et Juliette sous ses vraies couleurs. Un petit bémol cependant. Si vous avez la pièce de Shakespeare en tête, vous vous souvenez peut-être qu'à la fin, Roméo et Juliette ne se retrouvent pas. Roméo se suicide. Attention les jeunes gens qui sont dans la salle. Roméo se suicide, mademoiselle. Roméo se suicide dans le tombeau dans lequel il retrouve Juliette. Il pense que Juliette est morte. En vérité, Juliette a absorbé un filtre qui lui donne l'apparence de la mort. Ce filtre, elle en avait besoin pour échapper au deuxième mariage auquel l'a destiné son père ne sachant pas qu'elle avait épousé secrètement Roméo. Dans la pièce de Shakespeare, Juliette paraît morte, elle est au tombeau, dans un grand caveau familial, le caveau des Capulet. Roméo ignore le subterfuge, il n'a pas reçu le message du frère Laurent, le religieux qui avait préparé le filtre et monté cette affaire avec Juliette en grand secret. Il arrive, il pense que Juliette est morte, il se suicide. Juliette se réveille, puisqu'il était quand même prévu qu'elle se réveille, c'était juste un filtre, ce n'était pas un poison. Elle constate que Roméo est mort, elle se suicide. À la fin, j'aime bien la jeune fille qui fait « Ok, je suis ». Après quoi, dans la pièce de Shakespeare, donc je continue à te regarder parce que toi tu suis, après quoi, dans la pièce de Shakespeare, les deux familles arrivent au tombeau, constatent que les jeunes enfants sont morts, comprennent qu'à cause de leur guerre terrible, de la guerre terrible qui les oppose depuis des générations à Vérone, eh bien, c'est à cause de cette guerre qu'ils entretiennent tous avec beaucoup de méchanceté. Ces deux jeunes gens n'ont pas pu vivre leur amour correctement. Et là, sur le corps des deux jeunes gens, les deux familles, Capulet et Montaigu, se réconcilient enfin. C'est la morale politique de la pièce de Shakespeare. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir en 1868, donc un an après la création de Gounod, lorsqu'enfin la traduction de François-Victor Hugo sera publiée. Jusque-là, on pensait que ça finissait autrement. Parce que jusque-là, la fin de la pièce qui prévalait dans toutes les versions qu'on donnait en scène dans toute l'Europe, en Angleterre et sur le continent, c'était une version qui avait été élaborée par David Garrick. David Garrick, immense comédien anglais du milieu du XVIIIe siècle, le modèle de comédien pour Denis Diderot, le plus grand comédien européen de l'époque, jouait le rôle de Roméo et avait réécrit une fin. Oui, parce que tout le monde réécrivait Shakespeare. Depuis la mort de Shakespeare, tout le monde réécrivait ses pièces, pas seulement sur le continent, mais aussi en Angleterre. Et David Garrick avait inventé une autre fin dans laquelle, pour mettre un peu de pathos, eh bien, Roméo mourait lentement, enfin absorbait le poison, mourait pas tout de suite, ce qui laissait le temps à Juliette de se ranimer et aux deux amants jeunes époux de faire un grand duo, de faire un bel échange dramatique avant que l'un et l'autre meurent en même temps. C'est quand même beaucoup plus romantique. Donc, cette mort ultime ensemble après un long échange, évidemment, ne peut donner lieu qu'à un duo. Donc, cette tradition a été maintenue pendant toutes les différentes versions qu'on a vues successivement sur les scènes anglaises, puis sur les scènes françaises. Et dans l'opéra de Gounod, évidemment, le dernier duo, il est là. Gounod et ses librettistes sont fidèles à la version de David Garrick, mi-18e, et pas à la pièce de Shakespeare. Ils la connaissent sans doute parce qu'ils ont dû lire la traduction de François-Victor Hugo, mais ils se sont dit « ça va paraître l'an prochain, c'est pas intéressant ». Et on termine plutôt sur les deux amoureux jeunes époux qui meurent ensemble que sur le grand final historique, réconciliation des Capulet et des Montaigu. Alors pour Gounod, c'était pas facile de faire des choix parce que, évidemment, il y avait la concurrence de l'opéra de Bellini, qui était connu en France depuis les années 1830, les Capulet et les Montaigu, qui avait été donné d'abord en version italienne au théâtre italien, beaucoup dans cette salle-ci, puisque le théâtre italien a occupé cette salle-ci pendant une vingtaine d'années, enfin la précédente, mais bon, au même endroit. Mais les Capulet et les Montaigu avaient aussi été redonnés un peu plus tard, au moment où ils créaient Faust. Eh bien, la pièce de Bellini, l'opéra de Bellini, était donnée en français à l'opéra de Paris, qui à ce moment-là se trouvait rue Le Pelletier, tout près d'ici. Donc il y avait ce référentiel, bien entendu. Mais surtout, pour Gounod, il y avait Berlioz. Il y avait la symphonie dramatique de Berlioz. Et Berlioz avait dit, moi, je compose une symphonie dramatique à partir de cette pièce de Shakespeare que j'adore. Il l'adorait. Pour plein de raisons, il adorait Shakespeare. Vous savez aussi que Berlioz avait épousé Juliette. Enfin, il avait épousé la grande comédienne britannique qui jouait Juliette, qui jouait Ophélie, qui jouait d'autres rôles féminins encore de premier plan dans les pièces de Shakespeare, lorsque une troupe anglaise venait, à la fin des années 1820, jouer du Shakespeare à Paris. La grande comédienne anglaise, Harriet Smithson, avait été le coup de foudre du jeune Hector Berlioz. Donc il avait épousé Juliette après avoir passé beaucoup de temps à lui expliquer son amour. Et cette symphonie dramatique, Roméo et Juliette, il avait estimé qu'il ne pouvait pas faire de la pièce autre chose qu'une symphonie. Et en particulier, dans cette symphonie dramatique avec voix, il y a deux rôles qui ne sont pas chantés du tout, qui sont les rôles de Roméo et de Juliette. Et Berlioz avait dit, cela, ce n'est pas possible. Il faudrait des interprètes tellement jeunes et tellement beaux, et puis il faudrait élever le niveau du discours amoureux tellement haut. Il y a déjà une si grande histoire du duo d'amour dans le genre opératique qu'on ne peut pas y arriver. Donc moi, je fais la symphonie sans les deux rôles, titre. Voilà. Et Gounod, qui aimait beaucoup Berlioz, ils étaient très proches, très amis, Gounod a attendu un peu et s'est dit « on va le faire quand même, on peut le faire, je peux le faire ». Et il a bien fait. Mais Gounod avait donc, comme cela, une tradition derrière lui, qui était la tradition de... Alors, une tradition plutôt de grande précaution du public français et des intellectuels français à l'égard des pièces de Shakespeare en général. On ne traduisait pas fidèlement Shakespeare, on le dévoyait, on le transformait beaucoup. Il y avait eu une série d'opéras comiques, par exemple, d'après la pièce de Roméo et Juliette, fin 18e en France, c'était que des opéras comiques. Donc c'était que des comédies qui finissaient par le mariage reconnu, accepté par les familles, de Roméo et Juliette. Il y avait cette tradition-là, ça ne marchait pas. Il y avait les opéras italiens qui étaient un peu plus proches de la pièce de Shakespeare en ce qu'il s'achevait de façon tragique, mais en restant vraiment plus du côté de David Garrick que du côté de l'original. Et puis, il y avait cet Himalaya que constituait Berlioz, qui avait peut-être eu l'intelligence de faire si peu de l'opéra que ça laissait à la place à Gounod, au fond, de ne faire ni de l'opéra comique, ni de l'opéra italien, ni de la symphonie, mais de faire le tout premier opéra français sur cette pièce. Donc, par chance, parce que Gounod avait du génie, de la sincérité, qu'il était amoureux de l'Italie, où il avait vécu à l'époque de ses études, qu'il était amoureux du Sud, il a composé cette œuvre au bord de la Méditerranée pour avoir quelque chose de méridional dans sa musique, parce que Gounod était un grand sentimental, un immense sentimental, et que l'amour, ça lui parlait, eh bien Gounod n'a pas hésité du tout, alors que bien d'autres compositeurs probablement se sont dit à la même époque, on aimerait bien, mais on a peur de ne pas y parvenir. Et Gounod, en ne se mettant aucune barrière, a réussi son pari. Alors c'est une œuvre qui est un petit peu complexe à monter aujourd'hui, parce qu'on a plusieurs partitions, on a plusieurs éditions, on a plusieurs états de l'œuvre. Gounod n'a jamais dit « c'est telle version que je veux qu'on joue ». On sait à peu près ce qui a été fait au Théâtre Lyrique en 1867, on sait à peu près ce qui a été fait à l'Opéra Comique en 1873, on sait mieux... bien ce qui a été fait à l'Opéra de Paris en 1888, car l'œuvre a fini par entrer au répertoire de l'Opéra de Paris aussi. L'Opéra de Paris ne voulait pas laisser échapper une telle merveille. Donc ça, c'est la version qu'on connaît le mieux. Elle a été bien chroniquée, elle a été imprimée. Et aujourd'hui, un directeur musical comme Laurent Camplone, un metteur en scène comme Eric Ruff, eh bien, regarde l'ensemble du matériel dont il dispose et décide de jouer telle version de l'air du filtre, Hein, il y a une version longue, il y a une version courte. Telle version du deuxième mariage de Juliette, il y a une version longue, il y a une version courte. Voilà, on a fait des arbitrages avec le plus grand soin possible et on est très heureux de vous présenter une version à laquelle on a retranché deux petites choses, mais parce qu'on voulait vraiment que le mouvement dramatique soit continu, qu'il n'y ait pas d'interruption. On s'en explique dans le programme de salle, mais c'est une version qui est aussi fidèle que possible, à la fois à l'esprit de la création et puis à tout ce matériel dont on dispose pour des reprises auxquelles Gounod a apporté tout son assentiment. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle première et gardez vos masques.